avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Goodlux Paris, l'édition du week-end. Et oui, désormais, Goodlux, c'est tous les jours de la semaine, en direct et en solo, entre 13h et 15h. Je vous retrouve sur BFM Business. Et quand le week-end arrive enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, Emmanuel, je vous propose une petite séance de détox. Si, si, ça va vous faire du bien. On s'allège, on se purifie. Aujourd'hui, jus, produits cosmétiques, séjour, sport, tout est prétexte à la détox. La tendance healthy, ça va pour la France. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors comment ça marche et comment séparer le bon grain de l'ivresse? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alexandra Jubé, responsable Insight et Digital chez Nelly Rodi, Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, et Charlotte Roua, fondatrice de Juice It. Mais tout de suite, les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et les nouveautés, on commence toujours avec vous Emmanuel Rubin, avec la table de la semaine.
La table de la semaine où l'on reparle d'un certain Yves Condebord, est-ce qu'il faut encore le présenter? Alors oui, c'est vrai, ça, on en parle à peu près toutes les semaines, régulièrement, c'est vraiment un deus ex machina de la gastronomie française. Simplement, ça faisait longtemps finalement qu'il n'avait pas ouvert une nouvelle enseigne. Alors on connaît tous son carrefour fétiche de l'Odéon avec son relais, bistrot à double vitesse, et toujours les bonnes vitesses, l'avant-comptoir qu'il avait ouvert il y a quelques saisons, son hôtel qui accompagne, et depuis quelques jours, un deuxième avant-comptoir dédié à la mer. C'est-à-dire que Condebord, on le connaît, c'est comme un cuisinier gaillard, un carré d'épaule, fan de rugby et fan des plats qui font le sud-ouest. On le connaissait moins sur le registre iodé, marin, c'est un peu la grande tendance parisienne pour plein de raisons. Le voilà qui s'y frotte. Alors l'avant-comptoir, c'est quoi? C'est quatre murs, un comptoir, pas de place assise, donc on est vraiment dans les coudes posés sur le zinc, et surtout la nuque qui se lève vers le plafond. Pourquoi? Parce que le plafond, c'est le menu. Et là, il y a un petit côté tokyoïde, c'est-à-dire que on est dans un registre de tapas marin et chacune des tapas est affichée comme cela, crochetée au plafond, et vous choisissez chacune des tapas qui va faire votre appétit, et ça vous revient, excusez-moi l'expression, en gueule, à une vitesse incroyable. C'est ça le rythme tapas, pas moins de 80 variations, c'est épatant. C'est vraiment la revanche de l'apéro, du comptoir. Petite huître qui est travaillée en manière de Bloody Mary. La frégola, maintenant, vous savez ce que c'est. Vous savez, c'est ces petites patrons de sardes travaillées à l'encre de sèche avec du poulpe, des petits fish and chips, des petits plats marinés, incisés, en pleine forme, tartinés, marinés. On s'y trompe pas.
Les adresses sont Carrefour de l'Odéon. Vous
ne pouvez pas louper. Si désormais, il n'y a plus de place à l'avant-comptoir de Salé, vous allez à l'avant-comptoir de la mer. Si vous n'avez pas de place, vous avez le bistrot. Éventuellement, vous avez même l'hôtel qui accompagne. En tout cas, un Condebord en pleine forme et qui est bien décidé à recoller à la dynamique parisienne, puisqu'on annonce, il annonce, au mois de septembre prochain, un restaurant dédié entièrement au cochon. Le cochon, wow, c'est sa passion, du côté du marché Saint-Germain. Ben, c'est à deux pas.
Allez, on change de quartier, Emmanuel. On va du côté de République. Encore, vous allez me dire, les hôtels
oui,
arrivent à République. On en a beaucoup parlé, République, Saint-Martin, Saint-Denis, tout ça, il y a beaucoup de restaurants. Eh ben voilà, les hôtels qui s'y mettent. En attendant, celui qui arrivera, le Renaissance, qui va arriver très bientôt, dans quelques mois maintenant, au printemps. Là, il y a un tout petit hôtel dans une petite rue qui paye pas de mine, qui donne sur ce fameux boulevard Magenta qui monte vers le nord depuis République. Ces petits hôtels de quartier, comme il y en a pas mal, sans véritable vie, là, ils ont repris. Et c'est la chaîne Neuf Hôtels qui l'a repris. Neuf Hôtels, il y en a déjà dans Paris. Il y en a du côté de Montparnasse et d'Opéra. Il y en a même aussi à Bruxelles et à Lisbonne. Et là, 7-9 rue Pierre Chausson. C'est tout simple, c'est-à-dire que les chambres, c'est du bois doré, du blond, du blanc, des draps blancs, tout simple. Et vous avez même des chambres single, en revanche, bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire...
C'est un côté petit japonais, ça aussi.
Exactement, vous n'avez même pas de lit double. Vous avez un lit simple et accolé, vous avez la douche. Mais du coup, c'est moins de 100€ en plein cœur de Paris, dans
un
bon quartier.
C'est plus un business hôtel qu'un chic hôtel.
Quoique, mais en tout cas, effectivement, ça a tous les codes du business hôtel. Vous avez le petit bar ouvert 7/7, 24/24. Vous avez la possibilité de prendre le petit déj à emporter assez rapidement. Mais tout ça est bien fait, très propre, avec la petite touche de design comme il faut. C'est 48 chambres. Il y a quand même deux petits vélos d'appartement, parce qu'on sait que quand on est en business, voilà, on a besoin de bouger. Mais voilà, ce qui veut dire, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Blazer. Parce qu'aujourd'hui, C'est la contraction de leisure et business. Aujourd'hui, voilà. Les gens qui viennent en business, ils ont aussi envie de se détendre et vice-versa. Et du coup, le petit hôtel, vous êtes quand même dans le quartier qui bouge. Et en même temps, c'est le prix business que la société va bien payer. Ça s'appelle le 9 Hôtel République. C'est pas pour une grande nuit, mais un petit passage sympa. Et c'est dans le 10e. Allez, tout ça nous amène à Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Bonjour, comment ça va?
Ça va nickel.
Et Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce qu'il fait sur le web?
Pas mal de choses. Cette nouvelle expérience, donc si vous tapez hashtag Be the Bottle, vous allez évidemment tomber sur cette vidéo qui fait parler d'elle en ce moment. C'est une expérience à vivre quand on est spectateur comme nous. On va se mettre à la place véritablement d'une bouteille de parfum posée, immuable, sur une table, face à ce qui se passe devant nous. L'action, c'est des marins et des petites courtisanes qui se mettent en scène. Évidemment, ça rappelle les parfums du corps d'homme et celui de la femme. Ça s'appelle le classique et je sais plus comment il s'appelle. L'autre, le mal.
Le mal.
Ah oui, évidemment, mais j'en mets pas, moi, du mal. Donc c'est évidemment pour remettre tout ça en scène. C'est plutôt bien fait. On est véritablement en 3D, hein. C'est une animation. On peut la vivre sur l'ordinateur, on peut aussi la vivre sur le smartphone. Et mieux, si on va en boutique, on peut mettre un masque de réalité virtuelle et véritablement à 360 degrés et véritablement vivre l'expérience d'être d'une bouteille de parfum. Très, très honnêtement, moi, je l'ai fait. On s'ennuie un peu à être une bouteille de parfum sur une table. Mais bon, si on a 2 minutes, ça vaut le coup de s'y arrêter.
Le paradoxe de la chose, c'est que je pense que les hommes vont regarder le clip féminin et les femmes le clip masculin, parce que
c'est
le casting des deux top modèles sont hallucinants, mais personne ne va regarder vraiment le parfum qui lui est dédié. En revanche, moi, je peux passer des heures, je ne m'ennuierai pas à être la bouteille féminine.
Tout le monde y trouve son compte.
Hashtag be the bottle. Allez, toute autre chose, on fait un peu de sport.
Un peu de sport, effectivement, avec Nike. On en parlait la semaine dernière, Adidas a fait une web-série. C'est le cas un petit peu de toutes les marques en ce moment, c'est la nouvelle façon de se faire voir, de faire parler de soi. Nike a réalisé lui aussi sa web-série, encore mieux, avec des véritables comédiens, un réalisateur, une réalisatrice très connue qui a notamment participé à des épisodes de Girls Walking Dead. C'est très bien fait et on rentre dedans alors qu'on parle de Nike et que c'est très publicitaire. Le topo, c'est deux sœurs qui ont la vingtaine, qui se retrouvent dans leur famille et qui se mettent des actions à faire. Il y en a une qui est très sportive et qui va demander à sa sœur de se mettre au sport et de réunir 1000 followers sur sa communauté internet, et l'autre qui n'est pas du tout sportive et vice versa. Voilà, c'est toute une histoire comme ça. Je la raconte très mal parce que je sais pas pourquoi.
Non mais c'est sur-scénarisé. On est vraiment, vous savez, dans ces petites capsules qu'on voit à télé par Romain Jean-Bray et compagnie. C'est tout aussi bien fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que en vérité, bien, en tout cas très malin de la part de Nike, c'est qu'on parle très peu. C'est plus un décor, un accessoire. Nike, on n'est pas là à parler véritablement. On cite pas la marque à aucun moment.
Oui, mais par contre, ça parle. C'est véritablement des films. Hein. C'est une web série, donc ça parle. Il y a des dialogues.
Oui, mais on parle pas de Nike.
Ah non, on parle pas de Nike. Il y a tout ce qui est accessoire de Nike. Exactement.
Mais on est dans un scénario.
Exactement.
Bon, et on reparlera de basket puisque c'est ça dans un instant.
Toutes les semaines. Encore pendant 3 semaines.
Et pour l'instant, on termine avec vous, Sandy. Oui. On parle vacances.
Oui, vacances avec Flightographer. Je me disais qu'il restait une semaine de ski. Flightographer, c'est un site qui vous permet de louer, de faire appel à un photographe professionnel pour ce que vous voulez. Donc des moments entre copines, en famille, pour immortaliser une demande en mariage. Voilà, ce que vous voulez. Vous allez sur le site, vous réservez, vous. Il y a tout un listing de photographes qui sont sur 6 continents, 160 villes référencées. Vous réservez, vous échangez avec lui et le tour est joué et vous immortalisez vos plus beaux moments. Ben, je trouve ça pas mal.
Et ben, au moins, les photos, elles sont réussies.
Ben ouais.
Et ben voilà.
Bon, c'est un peu fake parce qu'on se met quand même un peu en scène, genre vas-y, prends-la la photo. Mais bon.
Flightographer.com. Merci infiniment,
merci à vous.
Sandy. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, on poursuit Emmanuel avec très rapidement une petite épicerie.
Alors très rapidement, une épicerie bio. Mais vous connaissez les épiceries bio, on en parle beaucoup à Paris, mais elles sont à peu près aussi tristes que le sans gluten. C'est-à-dire qu'elles sont passées du salon Marjolaine, Baba Cool, macramé.
Oh, comme vous dites. Bon, donc celle-ci, elle est bien.
Et celle-ci, pour une fois, ils ont effectivement, alors d'abord c'est Biocoop qui l'orchestre, mais Biocoop qui orchestre une espèce d'enseigne qui est appelée à se multiplier à Paris, nettement plus haut de gamme dans son agencement, dans son décor, dans la présentation qu'on fait aussi bien du frais que du produit. C'est installé rue de Paradis,
dans le
milieu de Beaumont, dans le 10e. Très réussi, sincèrement. Pour une fois, ceux qui sont encore un petit peu bio-réticents se laissent aller parce qu'on a quand même les codes de la boutique gourmande de proximité. C'est très réussi avec un étage, éventuellement une cuisine qui vous donne des cours et qui vous apprends à faire vous-même votre pain bio. Bon, là, on commence à remarjoliser l'affaire. Mais très sincèrement, pour une fois, une épicerie bio qui soit un petit peu désirable, ça nous change.
Eh, ça tombe bien, parce que tout à l'heure... J'ai bien le mettre au granola. Eh ben voilà, ben justement, tout à l'heure, on parlera du détox, du healthy, où vous commencez à vous mettre dans l'ambiance. C'est bien, Emmanuel. Mais moi, je termine par l'objet de la semaine. Et l'objet de la semaine, justement, on va parler de... basket. Qu'est-ce que c'est que ça, Emmanuel?
Une basket. Basket.
Sauf que c'est un peu plus qu'une basket. Déjà, ça s'appelle, c'est une basket du Coq Sportif. Ok. Bon, d'accord, c'est une jolie marque.
Une basket avec une marque.
Voilà. Made in France.
Basket, eh ben, marque Made in France.
Grande marque Made in France, il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, ce n'est pas toutes les baskets, c'est juste une collection, quelques modèles, la bleue marine, la rouge. Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Eh ben, du coup, elle a de vraies propriétés. Par exemple, il y a une sorte de petit chausson en latex à l'intérieur. Voilà. Ils ont vraiment travaillé le produit. Donc, dans le confort, on a une vraie basket, on a une vraie basket stylée. Il n'arrête pas en ce moment le Coq Sportif. On a,
vous voyez, occupe le terrain. Parce que après, toutes les baskets essayent justement de soigner quand même la technologie. Donc c'est surtout une basket made in France. Mais c'est bien fait déjà.
Mais c'est fabriqué donc à Cholet, dans les ateliers Cléon. C'est inspiré des modèles emblématiques. On retrouve quand même la ligne du Coq Sportif. Et donc bleu, blanc, rouge, bien sûr, les trois modèles. On a du plein fur ou du nubuck, un véritable confort, etc., etc. On trouve ça dans les magasins Le Coq Sportif, bien entendu. Et puis chez Colette, les Galeries Lafayette, tous les... Vous voyez, tout ce qui fait la tendance.
Propos, mon épicerie fine, rue de Paradis, elle s'appelle Baba. J'ai oublié de donner le nom.
Ah bah voilà.
Baba Basket.
Ça vous laisse Baba, exactement.
Baba Bio.
Allez, justement, le sport, le bio, on continue dans la tendance, on va vraiment prendre soin de nous. Vous allez voir, on va être transformés. Tendance détox, tout de suite dans Goodlux.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des Goodlux en mode détox cette semaine. Un petit jus, une petite séance de yoga et un petit séjour. Et vous verrez, tout sera pour le mieux. Vous serez transformés grâce à nos invités. Nous sommes en compagnie d'Alexandra Jubé. Bonjour.
Bonjour.
Responsable Insight et Digital dans le bureau de tendance, Nelly Rodi. Nous sommes également en compagnie de Charlotte Roua. Bonjour.
Bonjour.
Fondatrice de Juice It, c'est bien comme ça qu'on prononce.
C'est ça.
Donc, qui propose des jus de fruits et de légumes pressés à froid. Vous allez nous expliquer tout ça et des petites cures, justement, qui vont nous faire du bien. Et puis également compagnie d'Élodie Garamond, bonjour.
Bonjour.
Fondatrice du Tigre Yoga Club, déjà deux adresses à Paris, côté rive gauche et puis...
Côté rive droite.
En attendant d'autres adresses et là aussi en passant par chez vous, on peut un petit peu se refaire une santé et s'alléger. Parce que c'est bien ça quand même l'idée, Alexandra Jubé. Quand on parle de cette tendance détox, celle-ci qui nous vient d'ailleurs pour changer des États-Unis, le premier truc c'est l'idée de s'alléger.
C'est de se nettoyer, c'est de faire un peu table rase de tous les excès qu'on a pu faire, qu'ils soient réels ou en tout cas spirituels, et de se dire qu'on va nettoyer, faire table rase, tout cleaner, que ce soit le corps ou l'esprit. Parce qu'il y a une grosse dimension spirituelle dans la détox.
Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est arrivé, on a combien de temps de retard par rapport aux États-Unis là?
À peu près ça. On a pas mal de temps de retard.
Pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne nous voient pas à la télévision, j'ai fait pouf.
Du coup, on a pas mal de temps de retard parce qu'en fait, aujourd'hui, alors que les jus, il commence à y avoir pas mal d'enseignes qui se développent sur le jus, par exemple, mais aux États-Unis, c'est à chaque coin de rue, c'est l'équivalent de la boulangerie chez nous. Donc, on a encore beaucoup de retard, notamment et sur tous les services qui vont avec les jus, les clubs de sport, etc.
Mais là-bas, en termes de boulangerie, ils commencent à découvrir à peine le croissant.
C'est ça.
Donc, on balance un peu les choses.
La balle au centre. Mais c'est vrai que du coup, on met un petit peu le détox à toutes les sauces quand même. Bien sûr, il y a les jus et ça, vous allez nous expliquer, ça nous semble assez logique. Il y a de vraies raisons, on va y revenir. Le sport aussi, il y a de vraies raisons. Mais je sais pas, il y a des produits cosmétiques, détox, ça... C'est vrai, ça, c'est un peu
c'est un n'importe peu un quoi. Nouveau langage pour dire un espèce de nettoyage. Dans les produits cosmétiques, le détox, c'est quand on veut enlever les impuretés, c'est un espèce de nouveau mot purifiant, nettoyant qu'on avait avant.
Valise.
C'est un mot valise dans lequel rentre un peu tout. En tout cas, c'est cette idée de, on était dans un certain état d'esprit, on avait un certain physique, etc. Et on va retirer des choses. On va être un peu plus ascète. On va soit moins manger, soit faire du sport de façon plus régulière. Il y a quand même une démarche vraiment de vouloir avoir un engagement envers cette détox.
Ça, c'est bien. Alors, vous êtes engagée en faire cette détox, Charlotte Roua, sur, j'allais dire, le filon des jus. C'est un petit peu ça, parce que quand même, je crois que sur Paris, on a plus d'une demi-douzaine de marques aujourd'hui qui se sont...
Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui. Ouais. Mais lorsque vous êtes arrivée vous ?
Alors moi j'ai commencé il y a 3 ans déjà. Mmh. En fait, je suis rentrée des États-Unis évidemment, donc j'avais passé 8 ans à New York. Et donc j'étais devenue un petit peu addict au jus parce que c'est vraiment addictif dans le sens où on se sent bien quand on en prend au quotidien. Et donc quand je suis rentrée vivre en France, bah ça me manquait tellement que je l'ai un petit peu fait pour moi. Maintenant pour revenir sur le point de la détox, il faut bien insister qu'il n'y a pas de détox miracle. C'est pas en 3 jours qu'on va devenir une nouvelle personne. C'est plutôt justement un moment où on se recentre sur soi, où on prend le temps de redécouvrir en tout cas les fruits et légumes. Pour les jus ou même pour le sport quand on fait des stages ou des ateliers, mais c'est plutôt pour reprendre, se remettre à zéro et se réengager justement sur le long terme, avoir un meilleur régime alimentaire.
Je crois qu'il y a un vrai effet déculpabilisation aussi. Ah oui. Dans le côté détox, ouais, on parle de nettoyage, on parle de ça, et je trouve qu'il y a un vrai effet, je me déculpabilise et je prends en main ma vie.
C'est-à-dire qu'on peut prendre un petit jus et puis un cornet de frites après ?
On fait souvent ça.
Justement, ça décrédibilise tout, parce que c'est bien, ça reste très vertueux, très spirituel, on se donne bonne conscience, on se spiritualise le temps, quoi, une journée, 2 journées, on boit un jus, puis finalement, pendant 10 jours, on prend des frites. À partir de quel moment, et on va en parler certainement avec le yoga, parce que là, il y a quand même un investissement physique, si on parle de cette culture des jus qui nous vient effectivement surtout de la côte ouest, mais pas seulement, à partir du moment, quel moment ça devient véritablement efficient? Si c'est pour en prendre comme cela en passant dans la rue parce que ça a une jolie gueule, c'est orange, pop, tout ça, je pense qu'on va se faire plaisir 2 minutes, mais c'est plus de la bonne conscience que quelqu'un véritablement, quelque chose, je veux dire, véritablement d'incarné.
Alors non, justement, c'est un petit peu l'inverse que je voulais dire, c'est qu'il vaut mieux, moi je conseille vraiment aux gens, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'hommes, on pense toujours que c'est un truc de nana, mais pas du tout. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent parce que vraiment boire un demi-litre de jus, de fruits et surtout de légumes par jour, c'est formidable et c'est peut-être mieux que de se faire une cure de 3 jours où on boit que des jus et puis après on mange du McDo et des frites comme vous dites. Donc vraiment l'incorporer dans un geste quotidien, c'est vraiment intéressant.
Au bout de 3 ans, vous justement avec l'expérience de vos enseignes, est-ce que dans le public il y a des gens qui reviennent, qui ont vraiment pris cette rythmique, quasiment cette discipline qui peut être du plaisir, mais est-ce qu'ils le jouent vraiment en jeu ou finalement c'est plus des modes?
Je pense que c'est complètement addictif, c'est vraiment comme une séance de sport. Quand on en ressort, on se dit oh là là, mais je me sens bien et j'ai vraiment envie d'y retourner.
On va revoir tout à l'heure ce qu'il y a dans les dans les bouteilles.
C'est vrai, je vous taquinais un peu en disant que vous n'êtes pas la seule marque,
tout ce qui est autour de la détox explose, ouais. Parce qu'en plus ça va avec des comportements de consommation qui sont extrêmement extrêmes pour le coup dans tous les sens. C'est-à-dire que en fait ceux qui font des détox sont aussi ceux qui vont aller manger un cornet de frites et un burger, que celles qui font des retraites yoga sont les mêmes qui sont hyper connectées tout le temps, que ceux qui font des détox digitales et qui partent en vacances en déposant leur portable sont finalement les plus accros.
Il y a un petit côté schizophrène quand même.
Il y a un côté complètement schizophrène qui est lié à l'époque, et en fait au lieu d'être dans la moyenne tout le temps, on fait plutôt des extrêmes de l'un et de l'autre, on est extrêmement d'un côté. Ouais, mais c'est l'époque.
C'est ça. Alors, juste pour citer d'autres marques, j'avais reçu par exemple dans Good Luxe Paris, Good Organic Only, en plus avec Mareva Galanter, parce qu'en plus il y a ça aussi, il y a un côté j'allais dire jeune femme. Vous disiez ça ne s'adresse pas qu'aux hommes, mais souvent c'est une jeune et jolie femme qui vante les mérites comme Good Organic Only, mais pas seulement. Il y a Detox Delight, il y a C'est Juice, allez Juice Lab, j'ai suivi tous Juicery, Nubio, Health Inside, etc., etc.
La plupart des marques de jus et la plupart des marques LC aujourd'hui travaillent sur une image extrêmement identifiée, qui est très instagrammable, qui va faire des très beaux clichés avec un joli fond blanc. Et le jus est un super produit à prendre en photo. Donc c'est vrai que c'est très associé à un comportement un peu féminin de filles qui vont prendre des photos de ce qu'elles consomment. Mais c'est pas parce que les garçons ne prennent pas de photos qu'ils n'en consomment pas pour autant.
Alors justement, si on revient sur les jus, comment on a une garantie que justement, parce qu'il y a le liquide qui a quand même derrière tout ce marketing, et qui peut être vertueux lui aussi, derrière ce joli packaging qui lui aussi peut être vertueux, comment on a une garantie que le jus qui est à l'intérieur du flacon et qu'on va ingurgiter nous fait du bien, si ce n'est du bon?
Je pense que les effets se font ressentir très rapidement.
En quoi ils sont faits minutes, ils sont faits, là on parle de jus, le fruit,
je tiens à insister que, enfin en tout cas pour ma part, la démarche elle est vraiment d'offrir le meilleur produit en vraiment
du bio,
que du bio, même du biodynamique, donc c'est encore une autre tendance dans le bio, qui est un peu plus rigoureuse. Et tout est pressé à froid. Dans un atelier, ça reste vraiment à échelle humaine et on le fait vraiment maison.
Moi-même,
je le presse souvent.
Ouais, c'est ça, ça perd très rapidement en plus.
Ça dure vraiment 3 jours, les effets. Mais par contre, à la différence de certains, par exemple, de mes concurrents que vous avez cités, certaines personnes font du HPP, donc c'est la pasteurisation. Enfin, une sorte de pasteurisation.
Ça sert à rien.
Qui...
Ouais, très peu.
Bah, c'est un petit peu différent, on va dire, d'un jus qui reste, enfin, qui est vraiment frais et auquel on ne touche, rien du tout.
En tout cas, on peut effectivement faire les cures, on peut être, comme on dit, extrémiste, comme on disait. Mais ce que vous disiez, d'ailleurs, vous avez ouvert rue de la Vrière dans le premier arrondissement de Paris, c'est un lieu où aussi on peut se sustenter, on a quelques salades, etc. Parce que, quand même, les Français, on a du mal à ne se contenter. Les Américains aussi sont un peu extrémistes. Ils sont capables de faire ça. Nous, on est peut-être moins capables. Il faut toujours manger un petit peu quand même, non ?
Oui, non, mais c'est surtout, on voulait offrir quelque chose qui n'est pas justement quelque chose d'extrême. C'est vraiment se dire, bah, si déjà dans la semaine, bah, on a un repas qui est quand même sain, c'est déjà un pari de gagner pour plein de gens. Donc, du coup, c'est une bonne alternative déjeuner, petit déjeuner avec les jus.
On n'a pas parlé des recettes. C'est ça quand même. Ananas, cale, concombre, citron, gingembre, chia.
Alors celui-là, c'est un verbe qui doit être à l'intérieur.
C'est vert.
Exactement.
Ça déjà, ça commence à être un peu pointu, celui-là. Celui qui fonctionne le mieux, c'est quoi ? Ananas, pomme, eau de coco, menthe. Il existe toujours celui-là ?
Alors celui-là, c'est le plus fruité. Alors au tout début, on a ouvert, oui, c'était un peu le plus populaire parce qu'il était vraiment très simple et assez fruité. Mais maintenant, les gens sont plutôt fans du pomme, citron, gingembre.
Pomme, citron, gingembre, celui-là, là, le
orange. Non, c'est un jaune, mais qui est très, très, très fort en gingembre parce que le gingembre a vraiment mille et un bienfaits.
Voilà, mais à chacune des recettes, on a parlé de gingembre, de coco. Vous donnez les bienfaits que ça peut offrir.
Oui, mais tout en
si je prends celui-ci là, le rouge grenat. Qu'est-ce que c'est la recette ?
La betterave dedans. Betterave rouge,
c'est bon pour quoi, la betterave ?
Ben, la betterave c'est très bon pour le sang, donc c'est très bien pour oxygéner le sang, surtout après le sport. Donc ça c'est quelque chose que je conseille après une bonne séance de yoga.
La carotte sans regard.
Mais après voilà, encore une fois, il faut pas tomber dans les travers marketing en se disant je bois 250 ml, je suis une nouvelle personne, je deviens blonde et ma peau est magnifique. Non, c'est un travail qui est de longue haleine et c'est pour ça que j'encourage les gens plus à en boire au quotidien que de le faire une fois par an.
Évidemment, si ça, on l'allie à un peu de sport, on va au Tigre Yoga Club en passant, c'est mieux.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux.
D'ailleurs, vous êtes en association avec Juicy.
Oui, absolument. On a décidé de marier nos marques. Il y avait des ADN qui fonctionnaient bien ensemble et j'aimais bien le fait que ce soit, comme Charlotte le disait, vraiment pressé à froid, vraiment naturel. Et nous, c'est ce qu'on promeut. Et il y a une vraie démarche pédagogique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce que nous, on voit bien que les gens sont un peu paumés. Donc, ils ont tous l'impression qu'ils sont allergiques au gluten alors que 0,1% de la population l'est. Ils ont tous l'impression qu'ils vont révolutionner leur vie parce qu'ils vont avaler un citron chaud le matin. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'idée de la pédagogie et de travailler aussi sur les goûts et de dire que on peut casser les codes de tout ça, aussi bien du yoga que de ce côté détox, et réconcilier un peu le plaisir, donc le plaisir du goût, le plaisir des saveurs, le plaisir des couleurs pour les jus de Charlotte, avec se faire du bien, prendre soin de soi et le faire sur du long terme. Et finalement, la démarche que j'avais en montant le Tigre, c'était un peu la même idée. C'était de dire, aujourd'hui, tout le monde se dit, je vais faire du yoga parce que mon médecin m'a dit que c'était bon pour moi, ou mon ostéo m'a dit que je n'aurais plus jamais de problème de dos. Et en même temps, les gens avaient un peu une appréhension sur l'image du yoga et le côté, je suis enturbanée, je mange des graines, je marche pieds nus dans la rue. Voilà. Et alors, je caricature à l'extrême, mais voilà, c'est vrai
qu'on n'était pas loin.
Oui, mais et de la même façon, ce que disait Alexandra, c'est aussi une tendance qui vient des États-Unis et de la même façon qu'il y a des jus à tous les coins de rue, il y a des studios de yoga à tous les coins de rue aux États-Unis et on était là aussi peut-être un peu en retard. Mais voilà, moi, mon idée, c'était de créer vraiment un lieu de vie où les gens se fassent plaisir et se fassent du bien, prennent soin d'eux, mais le vivre comme une maison. L'éthique, ça ressemble à des maisons. Et parce que moi, je considérais que le yoga, c'était plus un art de vivre que simplement un sport ou une pratique physique. Et pour moi, le yoga, ça réconcilie beaucoup de choses. Ça réconcilie une façon de se nourrir, une façon d'amélioration du sommeil, une façon de prendre soin de sa peau, de prendre soin de son esprit, de soi, une autre façon d'apprendre à respirer tout simplement. Et j'avais envie de proposer tout ça dans un même lieu qui soit ouvert à tous.
Et ben, on va y rentrer. Rassurer, Elodie. On va rentrer dans ce lieu-là dans un instant.
Le Tigre Yoga Club, on va y rentrer. On fait une petite pause d'abord, justement, pour s'y préparer. Hein. Et puis on se retrouve juste après dans Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et quand la tendance, elle, si envahit Paris, eh bien nos Goût de Luxe se mettent en mode détox. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandra Jubé, du bureau de tendance Nelly Rodi, de Charlotte Roua, fondatrice de Juice It, et de Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club. On s'est arrêté à la porte un petit peu de votre Tigre Yoga Club, que ce soit rue de Chaillot ou rue du Cherche Midi. Et Elodie Garamond, vous expliquez effectivement que tout ça, le yoga, et vous avez voulu désacraliser un petit peu ce que ça représentait. Mais n'empêche, puisque c'est un petit peu le thème du jour, quand on rentre aujourd'hui, vous avez des choses assez pointues dans cette idée de détoxifier.
Le yoga va permettre une détox naturelle du corps à travers à la fois les postures, ce qu'on appelle les postures, donc les mouvements, et à travers la respiration. À travers les postures, ça va favoriser les fonctions d'élimination du corps. La circulation, la lymphe qui va se fluidifier, et toutes les fonctions d'élimination. Parce que ces postures sont construites comme ça, et particulièrement quand nous, on propose des ateliers détox, parce que bien sûr qu'on rentre quand même dans la tendance, donc on va faire des journées spéciales détox.
Les clients sont demandeurs, en fait.
Ah oui, ils sont complètement demandeurs, et donc on va travailler davantage sur certains types de postures, donc par exemple des postures de torsion. Je vais pas vous le mimer ici, j'aurais l'air grotesque, mais l'idée d'une posture de torsion, c'est donc de décentrer en fait son corps, et ça va faire un peu comme une éponge qu'on tord. Donc on va compresser l'abdomen, on le tord, et donc ça le nettoie comme une éponge, et en fait ça enlève les toxines et ça stimule la digestion, et donc ça fait vraiment une détox profonde naturelle, et on active l'élimination. Donc le yoga, de toute façon, naturellement, c'est une mécanique des fluides, j'adore, je ne l'avais jamais utilisée, mais j'en prends note.
Gratuit. Merci. Sans copyright.
Je l'utiliserai. Et donc voilà, donc ça c'est sur la partie vraiment posture. Alors les gens connaissent plus ça dans le yoga parce qu'ils voient ce côté physique. Après, il y a tout le travail de la respiration, parce que dans le yoga, on va apprendre à respirer, on va apprendre à stimuler sa respiration, à la forcer. Et qui dit respirer mieux, dit aussi accélérer la circulation de l'oxygène. Et donc forcément, la circulation d'oxygène, on élimine les toxines des tissus.
De la même façon,
on va vraiment se détoxifier. Allez, naturellement.
Après, j'ai une question.
Alexandra Jubé. Mais c'est intéressant parce que ça, les retraites, bien sûr, on peut s'arrêter à Paris au Tigre Yoga Club, mais ça aussi une grande tendance, les retraites yoga. Et alors, partout dans le monde, on peut aussi, vous avez répertorié chez Nelly en Audit des endroits magnifiques pour aller se faire. D'ailleurs, on voit les stars américaines aller faire leur petite pause yogi un peu partout.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une approche de plaisir. Et autant, il y a cette volonté de se détoxifier, mais on est toujours dans une recherche, et c'est pour ça que les jus sont colorés et bons, c'est pour ça que les centres de yoga sont agréables. C'est qu'on va partir en voyage, donc on veut bien faire une retraite yoga, mais on n'est plus à l'époque du yoga pieds nus en turbané, et du coup on veut un cadre de vacances, et on veut quand même pouvoir boire un petit cocktail le soir. On n'est pas non plus dans une démarche complètement radicale, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment cette chose-là qui était un peu une philosophie de vie est devenue une certaine forme de plaisir et presque un loisir auquel on peut piocher. On fait ça une semaine dans l'année, ça coûte pas grand-chose, et finalement on va pouvoir.
Donnez-nous quand même deux, trois exemples pour nous faire rêver un petit peu comme ça.
Il y a certaines destinations qui sont particulièrement cotées sur ces choses-là, par exemple Tulum au Mexique, qui est une grosse destination. Après, vous avez des destinations au Maroc, vous en avez un peu partout. À Bali, évidemment. Alors on va cumuler plusieurs choses. À Bali, on va cumuler le surf plus le yoga. Ça va être encore d'autres façons d'envisager le yoga. Donc c'est tous ces styles de vie dont on parlait pour le tic, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va appliquer ça, on va faire du yoga et on va boire des jus et on va pouvoir manger healthy, mais on va quand même faire un peu la fête et on va faire nos séances. Et du coup, c'est ce mélange-là qu'on va chercher, se détoxifier pendant une semaine, mais aussi en prenant du plaisir.
Mais c'est ça, sans se culpabiliser trop.
Ouais.
Et l'audition, on rentre encore dans cette logique des ateliers. À partir de quel moment on commence à avoir tout de même des résultats? J'imagine que ça dépend des compétences de la personne, de sa motivation, de son physique, de son corps, de sa souplesse.
Non.
Vous parliez du physique et de la respiration. À partir de quel moment on commence à retenir le bénéfice?
C'est immédiat parce que quand vous allez rentrer dans la séance, votre esprit, il est encore dehors. Vous avez encore en tête l'idée que zut, vous n'avez pas rappelé un tel et que vous avez oublié de booker la nono pour ce soir. et que éventuellement, si vous aviez 10 minutes de rab avant le début du cours, vous aviez encore des textos envoyés. Et à la fin du cours, vous êtes totalement déconnecté parce que votre esprit, votre respiration, elle a oxygéné votre cerveau et elle fait le vide. Et donc c'est vous ressentez tout de suite un bienfait. Et c'est pour ça que c'est complètement addictif le yoga et qu'on est sur cette large vague de fond, c'est que vous vous sentez mieux immédiatement. Vous sortez de la séance, je à 100% des
même
cas.
Même quand on est 100% novice.
Oui, parce que
même 100%
mais travail. Mais vous avez un travail.
Vous
êtes novice, mais vous avez des organes, vous avez des poumons, vous avez un cerveau, et donc les bienfaits de la pratique, vous allez les ressentir même en étant novice. Et les gens qui se disent ah oui, mais je suis pas souple, je peux pas faire du yoga, c'est pas une question de souplesse. Le yoga, il y a pas de compétition, il y a pas d'objectif, vous n'avez rien à atteindre, c'est pas un challenge. C'est simplement de connecter votre corps, votre esprit et votre souffle. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, à chacun sa connexion. Et dès que vous avez trouvé votre connexion, vous vous sentez mieux. C'est tout ça. C'est tout simple, le yoga.
Et en même temps, vous parliez de déconnecter. Ça va avec aussi. Vous nous parliez de téléphone portable, la déconnexion digitale, la détox digitale aujourd'hui, Alexandra.
Aujourd'hui, c'est une tendance de fond et qui, plus on est connecté, va aussi crescendo. On a besoin de se déconnecter. Alors là, il y a des lois qui sont en train d'être discutées justement pour ça, sur comment on fait des pauses, comment on arrête à certains moments. De plus en plus de gens se forcent à les faire. On peut avoir des hôtels où on nous propose de laisser notre portable à l'entrée. Il y a un club à Paris qui est une espèce de club un peu de méditation. Vous laissez votre portable à l'entrée et vous passez une heure et demie à ne rien faire, en fait, à prendre le temps de vous calmer et de vous ressaisir. Donc du coup, aujourd'hui, ces détox digitales, elles sont très importantes parce qu'en plus, elles nous permettent de faire des pauses et de réfléchir, de se reposer des questions, parce que cette sollicitation permanente nous empêche aussi de prendre le temps de faire les choses en ayant le temps d'y réfléchir et de les considérer dans leur globalité.
Et c'est vrai, vous le disiez, c'est aussi un petit peu du marketing, mais parce que les gens sont demandeurs. Quand on voit Relais et Châteaux, par exemple, mais tous, hein, mais les Relais et Châteaux, par exemple, que ce soit à Beaumanière ou au domaine de Rochevilaine, ils proposent aussi leur forfait détox. Alors l'un va être plus tourné vers la mer, l'autre va être plus tourné justement sur la nourriture, mais le moindre séjour aujourd'hui, ça va être au minimum détox digital. Et effectivement, à un moment donné, il faut couper les ponts. Juice It, Charlotte Roua, une fois qu'on est rentré justement dans le rouage de tout ceci, est-ce qu'on peut se contenter des jus ou est-ce que vous dites de toute façon c'est un état d'esprit, il faut jouer le jeu aussi, il faut faire un peu de sport, il faut savoir s'adonner à la détox digitale?
Ouais, je crois que je fais un peu de tout, mais bon, ouais. Avec parcimonie. Enfin, je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrémisme, encore une fois. C'est... Oui, je suis partie cet été au Costa Rica, j'ai fait du yoga et du surf.
Une yoga retreat.
Et j'ai bu des jus, et j'ai mangé. Mais j'ai bu aussi des mojitos. Non, mais je pense que voilà, il faut savoir vivre avec son époque et avec son âge, et c'est pour ça que j'essaie de jamais culpabiliser les gens. Oui, nous, on offre une alternative vegan et des jus, mais je dis pas aux gens, une fois que vous avez commencé à venir chez moi, vous devez tout arrêter, etc. Je pense qu'il faut, savoir trouver son équilibre, et c'est aussi un cheminement personnel, comme dans le yoga. Il y a des gens qui vont une fois par semaine, où il y a des gens qui en ont vraiment besoin et qui vivent là-bas. C'est vrai.
J'imagine, vous allez peut-être pouvoir toutes nous répondre, mais Alexandra, comme Nelly Rodi est un cabinet d'observation, le public, justement, qui investit ce du jus, de la détox, des yogas. C'est quel public? C'est quelle sociologie? Est-ce qu'on voit des gens qu'on n'attendait pas, finalement, il y a quelques années? Bon, c'était le babacool de service, puis c'était le bobo sous bonnet. Aujourd'hui, est-ce que justement des gens suractifs, qui eux allaient jusqu'au burn-out, commencent vraiment à prendre conscience de ce besoin, de cette nécessité de la décélération, et même s'ils étaient, se disent, bon, il faut que j'y aille, même si ce n'est pas volontariste, il faut quand même que j'y aille. Est-ce qu'il a changé ce public?
Aujourd'hui, ça touche un public de plus en plus large, et effectivement, on est passé d'un truc un peu élitiste, fait par quelques personnes qui étaient revenues de New York et qui disaient j'ai envie de faire encore comme si je buvais des jus à New York, à un public plus large qui va en tout cas chercher effectivement une pause, et notamment des gens très connectés, que ce soit par leur métier et donc de tout milieu professionnel, mais qui vont chercher comme ça des moments véritablement consacrés à eux. On se rend compte que c'est une tendance de fond. Il y a beaucoup de choses, par exemple, autour des gens qui vont se lever plus tôt pour avoir une heure et demie le matin pour profiter de leur existence. Bah, ça, c'est un peu pareil. Si vous ne pouvez pas vous lever très tôt, au moins pendant une heure, vous êtes enfermé dans une salle et vous faites du yoga et vous pensez qu'à ça. C'est aussi pour un public d'actifs.
Et ça va durer combien de temps?
Ça va durer, ça prend des formes différentes, c'est-à-dire que le jus, les jus mutent aussi, il y a des nouvelles tendances, des nouveaux goûts, il y a le jus, il y a la soupe qui se développe, il y a les mini-formats de jus pour faire une détox un peu rapide. Ça prend juste d'autres formes Après, ce sera un type de yoga, ce sera un autre dans quelques mois, ce sera encore un autre après. Évidemment, les formes, elles vont évoluer, mais cette envie, en tout cas, de se déconnecter, la tendance, elle est très lourde parce qu'elle est liée à un contexte sociétal d'hyperconnexion extrêmement éreintant.
Donc, on en a besoin. Donc, rapidement, il faut qu'on termine. Deux prochaines adresses de Tigre Yoga Club.
Deux prochaines adresses. Le Tigre va faire des petits. Est-ce que je peux juste rajouter, répondre à votre question? Moi, ce que je vois sur cette tendance de fond, c'est qu'aujourd'hui, le yoga et la méditation, parce qu'on ne peut pas les désolidariser, rentrent partout. Je le vois aux demandes que je reçois. Donc, ça rentre, c'est rentré dans les hôpitaux, c'est rentré dans les entreprises, ça rentre dans les écoles, ça rentre dans la cosméto, ça rentre dans les vêtements, le sportswear. Donc, j'ai l'impression, et je suis d'accord avec ce que vous dites, ça va sûrement varier, il y aura des formes différentes, mais qu'il y a quand même une réalité sur ce besoin que les gens ont de prendre un peu de temps pour eux. Et finalement, ils ont aussi réalisé qu'ils ont un capital qui est leur corps, ils n'en ont qu'un, il est fragile. Et aujourd'hui, les études médicales prouvent tellement largement que le yoga, la méditation et cette alimentation. Meilleure alimentation préserve le corps pour mieux vieillir, pour pas tomber malade. Je pense pas que ça va s'arrêter comme
c'est
ça.
C'est un peu plus qu'une mode.
C'est beaucoup plus qu'une mode.
Allez, pas une émission tous les deux ans, mais une par mois.
On va s'y mettre. Merci infiniment, Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, Charlotte Roua, fondatrice de Juice It, et Alexandra Jubé, responsable Insight et Digital, chez Nelly Rodi. On se sent presque déjà mieux, non?
Merci beaucoup. Et l'émission n'est pas finie.
Allez, c'est l'agenda tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans quelques instants, c'est le moment où Goodlux vous emmène ailleurs, loin d'ici. Mais auparavant, le livre de la semaine. Et le livre de la semaine, finalement, il vous fait aussi voyager un petit peu à sa manière, puisque ça s'appelle Givaudan, une odyssée des arômes et des parfums. Et là, ça nous fait vraiment voyager dans le temps, dans l'espace de cette magnifique maison de parfumerie que dis-je, ce leader de la parfumerie,
c'est
ce leader
c'est
mondial.
Une maison très puissante.
Exactement. Leader mondial des arômes et des parfums depuis près de 250 ans. Elle existe. Donc là, il y a tout. De la conception à la fabrication, des sites de récolte au laboratoire de recherche. On entre presque dans le secret des formules. On a des vieux papiers comme ça, comme sortis des grimoires avec quelques formules. On a la récolte des matières premières. On a des natures mortes. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'ils travaillent sur les parfums, mais aussi les arômes. Ils travaillent beaucoup avec les grands chefs. Et donc, on a des espèces de natures mortes où effectivement, on a l'impression de sentir l'odeur, par exemple, autour du chocolat ou des choses comme ça. Les contextes culturels et sociologiques, les affiches anciennes. Et c'est un livre assez étonnant et magnifique, qui nous fait remonter dans l'histoire ce qu'est aujourd'hui cette grande maison qui crée de nouvelles saveurs et de nouvelles senteurs en permanence.
Et qui crée même notre odorat, l'environnement qui nous accompagne. Moi, j'ai trouvé le bouquin très intéressant. C'est vrai que finalement, il y a une dimension business qui est très peu abordée. Parce que derrière Givaudan, c'est aussi toutes les marques de mode et pas seulement, qui finalement, c'est quasiment un passage obligé. Et faut pas en avoir peur. On a l'impression qu'ils masquent un petit peu la dimension business qu'ils ont, alors qu'il y a tout un tas de, je ne vais pas dire de négociations, mais comment on travaille avec une maison de mode, comment on arrive à passer des contrats, comment il y a toute cette dimension-là qui n'est pas abordée. Là, on a l'impression que c'est une maison essentiellement patrimoniale, ce qu'elle est aussi, mais derrière, elle est rentrée dans son siècle et violemment. Et ça, c'est dommage de ne pas assumer en 2016 cette partie-ci.
Mais oui, mais parce que les auteurs sont une historienne du parfum, un professeur de chimie, un chercheur en philosophie esthétique. Vous saviez que ça existait, ça? Écrivain, journaliste et critique littéraire.
Bien sûr,
de très belles photographies.
Prendre un journaliste économique.
Bah voilà, on va les inviter. Business. En tout cas, ça s'appelle Givaudan, une odyssée des arômes et des parfums. Et c'est sorti aux éditions La Martinière. Allez, Goodlux d'ici et d'ailleurs.
Goodlux Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Stéphane Breyer, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef de The Good Life. The Good Life, The Good Vibe, The Good Destination. C'est un petit peu ça, la revue
oui,
The Good Life.
C'est
toujours
oui,
good
oui.
avec
c'est
vous.
C'est toujours good.
En tout cas, vous nous emmenez bien loin. Et The Good Art, cette fois-ci, pour le nouveau numéro qui vient de sortir, c'est Séoul.
Oui, parce que, alors, l'idée a germé, parce qu'on avait déjà été à Séoul il y a longtemps, parce que c'est une ville qui est quand même extrêmement dynamique. Enfin bon. Et Art Paris Art Fair, qui se tient fin mars, comme vous le savez, invite chaque année un pays, enfin, met un espèce de projet sur un pays, il y a eu la Chine, voilà, il y a eu la Chine, il y a eu la Russie, et là cette année c'est Séoul. Alors on s'est dit on va aller voir ce qu'ils ont trouvé à Séoul. Donc on a Natacha Wolinski, notre journaliste, a accompagné Guillaume Piens, le directeur d'Art Paris, Alors, il avait déjà fait ses recherches, hein, et il l'a pas accompagné dès le début. Et en fait, c'est une scène étonnante, parce que, alors lui, il dit que c'est un peu le Tokyo des années 80. Ouais, c'est-à-dire que, on sait tous que l'art contemporain s'est développé, à Shanghai, s'est développé à Singapour, s'est développé à Hong Kong, et puis aussi à Séoul. Alors, ça date pas d'hier matin, il y a quand même des fondations de l'art contemporain qui ont été créées il y a une vingtaine d'années. Je pense notamment au Gan Art Center qui avait été construit par Villemot. Mais il y a une espèce d'ébullition, alors tant au niveau des marchands, des galeries, qu'au niveau des centres d'art et qu'au niveau des artistes. Donc même des galeries comme Perrotin, ils vont chercher des artistes à Séoul, enfin en Corée et donc aussi à Séoul. Donc c'est une scène qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. Alors on pourra les voir, nous, à Paris. Mais en fait, le mieux, c'est d'avoir lu l'article avant,
ça, pour se
savoir, pour se tenir au courant. Lui, il a invité 7 galeries. Il y a à peu près 60 artistes coréens qui seront là. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir. Et puis, en fait, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a quand même les chaebol qui tiennent l'économie coréenne.
Et je crois que c'est
ils en mettent beaucoup dans l'art contemporain.
Oui. Aujourd'hui, l'art contemporain, pour développer une scène, faut aussi cette dimension, effectivement, de la finance, puisqu'on sait que c'est une finance comme les autres. Effectivement, c'est pas étonnant de voir Séoul débarquer dans l'affaire.
C'est pas étonnant
si on regarde la géographie des grandes biennales, des grandes festivals d'art, des grandes. Regardez, c'est là où il y a de l'argent. Hein.
Absolument. Absolument.
Ça n'interdit pas le sens. Du moins, on l'espère.
Mais là, il y a du sens. Il y a du sens. C'est vraiment intéressant.
On poursuit notre petite balade. Good Palace.
Ah oui, alors
on
là,
va chez Alfonso.
On va dans l'hôtel des rois. On est allé à Séville, donc c'est Good Palace. On enfonce un peu une porte ouverte. On va dans un palace qui est mythique, on connaît tous. Bon, à Séville, on pense tous à Alfonso XIII. Mais en fait, c'est quoi? On y va pourquoi? Etc. Alors, c'est un bâtiment étonnant parce qu'on ne sait pas tellement si c'est du style Moudéjar, andalou, c'est un peu tout et rien, un peu tout et le reste. Enfin, c'est un peu étonnant.
C'est le mélange.
De toute façon, c'est ça, c'est l'identité de Séville. C'est un hôtel qui a été construit en 1928 pour l'exposition de
Universel.
Non, pas universel, hispano-américaine de 1929. Donc ils ont dépensé pour cet hôtel 10% du budget global de cette exposition.
Wow. Bon,
ouais.
Ah bah ils sont revenus sur leur investissement. Ils ont bien fait,
Donc autant vous dire que il y en a. Alors depuis ça a changé de main, il y a eu plein de lifting et en fait ce qui est rigolo avec cet hôtel, c'est que vous savez quand on rénove un hôtel, surtout un hôtel comme ça, parfois on perd l'âme, on perd l'essence, on perd. Alors là, il y a des erreurs, il y a des baignoires qui ont été changées, bon, elles sont moins bien, mais en même temps, c'est pas très grave parce que le charme y est et finalement si vous êtes à Séville, finalement c'est là qu'on a envie d'aller. En plus, ils ont su quand même renouveler, il y a une nouvelle table qui a ouvert il y a un an et demi,
un peu plus cool. La scène
gastronomique, c'est
ils ont toujours accueilli les grands chefs et tous les deux ans ils échangent.
C'est une éponge,
cet hôtel.
C'est une éponge, exactement.
Et c'est marrant parce que. C'est pas grave. C'est un monument de la ville.
Exactement. Et puis ce qui est drôle, c'est la clientèle parce qu'il y a à la fois plein de retraités qui vont là parce qu'ils vont en Andalousie, ils font le tour. Mais il y a aussi finalement, nous quand on y a été, il y avait un designer, je ne dirai pas son nom, mais très connu à Paris, jeune, 30 ans, sympa, beau, tout ce qu'on veut. Quand il va à Séville,
il
va pas dans les design hôtels de Séville, il va à l'Alfonso XIII.
C'est la meilleure carte de visite.
Bah oui.
Et peut-être qu'il va dans le Bronx aussi après. C'est
alors
ça
il
le truc.
Va, il arrive, en tout cas, s'il y va pas, il va y aller.
Grâce à vous.
Non, le Bronx, c'est étonnant parce qu'en fait, en New York, on parle beaucoup de la gentrification. Donc, il y a eu Manhattan. Puis il y a surtout eu le Brooklyn. Et en fait, maintenant, c'est le Bronx. C'est étonnant. Qui l'eût cru? Parce que c'est quand même, enfin, en France, c'est une expression française, dire que c'est le Bronx. Ils le savent d'ailleurs là-bas. Et il faut imaginer qu'un quart du borough, c'est des espaces verts. Donc déjà, ça fait envie. On se dit, tiens, pourquoi on n'irait pas? Et la criminalité a drastiquement baissé depuis 20 ans. Le taux de chômage est passé de, je crois, plus de 20% à maintenant 6,6%.
C'est mieux qu'en France.
Donc c'est mieux qu'en France, mais c'est pas difficile. Mais c'est à peine plus que la moyenne nationale. Il y a la moyenne d'âge est de 32 ans. Enfin, donc je veux dire, c'est un quartier qui bouge et entre la criminalité qui a baissé, le taux de chômage qui baisse, enfin il y a un truc qui se passe. C'est des balbutiements, mais si maintenant vous allez à New York et que vous connaissez mais vraiment tout New York, c'est pas à Brooklyn qu'il faut aller, c'est ce que font tout le monde, c'est dans le Bronx. Il y a même des petits hôtels marrants qui ont ouvert, il y a des restos sympas qui ont ouvert, il y a des bars rigolos. Alors c'est plus dans le sud du Bronx que ça se passe. pour l'instant. Bon, après, il y a le problème, c'est qu'évidemment, qui dit gentrification dit augmentation des prix. Bon, alors après, il y a tout ce qui va derrière. Mais nous, en tant que Français, en tant que touristes, finalement...
C'est
là qu'on a envie d'aller.
C'est la Good Direction,
indiquée
par The Good Life.
Absolument.
Merci beaucoup, Stéphane Marier, rédacteur en chef. Vous restez encore un petit peu avec nous, c'est l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Demandez le programme Omnivore Paris 2016, Emmanuel.
11e édition de ce festival culinaire parisien. Alors 11 ans, là encore, un certain art a duré. On ne présente plus un Omnivore Food Festival. C'est durant 3 jours, donc ce sera du 6 au 8 mars à la Mutualité. Pas moins de 100 rencontres. Des chefs, des influenceurs, des activistes de la food vont participer à des démonstrations, des masterclass, des débats autour de 5 scènes. Alors on connaissait les 4 premières puisque c'est celle qu'ils cultivent depuis 11 ans. La scène salée, la scène sucrée, la scène des artisans, la scène liquide. 5e scène cette année, dédiée à l'avant-garde. Alors qu'est-ce que l'avant-garde dite culinaire? C'est moi d'ailleurs la réflexion autour de la cuisine et des chefs que du restaurant. On parle souvent de ce restaurant comme une micro-société, un petit théâtre. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont invité tous ceux qui aujourd'hui bousculent un peu nos codes lorsque l'on passe à table. On parlera pop-up restaurant, table programmatique. Vous savez, ces tables qui se prennent un petit peu pour des Villa Médicis avec des programmes et des chefs qui changent tous les 6 mois. Bon, quel va être aujourd'hui, quel va être demain le restaurant qui se présage aujourd'hui? On en a quelques exemples à Paris dans les grandes villes, mais... est-ce que ça va durer? Est-ce que ce sera une tendance lourde ou pas? Eh bien, tout un tas de personnalités vont venir en débattre durant 3 jours. J'en parle aujourd'hui parce que la billetterie est ouverte sur le www.omnivore.com et vaut mieux faire ça tranquillement de chez soi en pianotant son portable ou ce que je ne sais, parce que sur place, autrement, c'est l'enfer.
Allez, une vente aux enchères, ça se passe chez Christie's à l'occasion de la Fashion Week. Il s'en passe des choses à l'occasion de la Fashion Week à Paris qui se tient du 2 au 9 mars. Donc le 5 mars, 3e édition de sa vente sacs et accessoires. Des estimations, attention, on rigole pas là, allant de 2 000 à 70 000 euros. Et alors, il y a une ou deux pièces phares, je vous en donne juste une. Un Kelly Natura 28 vert. Il y en a seulement une dizaine de pièces au monde. Mise à prix 15 à 20 000 euros. Ok, sauf que le dernier, un petit peu semblable, il s'est vendu à 108 000 euros et quelques broutilles. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est une façon de mettre la couleur sur le sac très particulière qui a été rééditée, retravaillée par Hermès dans les années 2000 et qui était très ancienne. Voilà, je ne vous dis que ça. On est dans le haut du panier.
Vous ne pourrez pas réenchérir, donc vous ne dites que ça.
Pour le plaisir des yeux, Emmanuel, on ira voir chez Christie's le 5 mars. Je vous parle d'un sac Kelly, mais évidemment, il y a toutes les grandes marques de luxe. Pour un petit Birkin en alligator aussi, tout petit. Voilà. Enfin bref, entre 40 et 45 000 euros. Très rapidement, Emmanuel, on finit les bruits de casserole.
Alors, rapidement, on a appris cette semaine que Éric Fréjon, chef du Bristol, qui avait déjà ouvert un restaurant au Mini-Palais également à la gare Saint-Lazare, eh bien, va orchestrer d'ici la fin de l'année la brasserie cultissime du drugstore des Champs-Élysées. Il faut dire que depuis que le drugstore s'est relancé, eh bien, cette brasserie n'a jamais marché. Et pourtant, les grands noms s'y sont collés, notamment Ducasse. On espère que Fréchon va réussir à faire enfin décoller cette table qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70, serait temps de se réveiller.
Et pour continuer sur Fréchon, vous nous parliez pas des chefs de gare, mais des chefs dans les gares. Donc Fréchon à Saint-Lazare, mais le Lazare, il ferme pendant 45 jours pour travaux, donc faites attention. Vous nous aviez parlé
de Thierry Marx à la gare du Nord
et Ducasse à Montparnasse.
Ils sont pas originaux, ils sont grégaires, c'est des moutons,
dingue,
ils suivent. Bruit de casserole, voilà. Ficherais, moi.
Et la chaîne Ipudo, elle arrive?
Chaîne Ipudo, alors ça, je vous en parle très très vite. C'est l'une des chaînes cultissimes à Tokyo, une chaîne dédiée aux ramen. Les ramen, vous savez, c'est les nouilles en bouillon. Alors, elle a fait le tour du monde. Elle arrive enfin à Paris, d'abord du côté de Saint-Germain-des-Prés, puis du côté des Halles. Je teste cette semaine et je reviens vers vous très vite.
Très bien, et moi, je finis donc sur la Fashion Week parisienne, puisque... les salons première classe, Don't Believe the Hype et Paris sur Mode. Alors attention, c'est les salons professionnels très pointus, mais bref, c'est pas tant ce qui vous intéresse, c'est que vous allez à la galerie de l'Opéra de Paris et ces salons ont demandé à quelques-uns des créateurs, je crois qu'il y en a 14, d'imaginer des pièces uniques autour, bien sûr, du ballet. Et donc là, vous avez plein de choses. Vous avez des petites broches de Macon et Lescoix dont on a déjà parlé ici, par exemple. Mais vous avez aussi la maison Baluchon qui fait un petit imprimé dans ses étoiles. Là, on est dans 400 et quelques euros. Et puis, vous avez une marque qui s'appelle Joshua. Ofalt, Joshua Ofalt, qui c'est? Eh ben, c'est un grand danseur de l'Opéra de Paris, c'est un danseur étoile, c'est l'invité d'honneur, et donc il présente justement sa marque éponyme de prêt-à-porter autour de la danse. Je vous en dis pas tellement
J'espère
plus.
J'espère qu'ils n'ont pas rendu hommage ses créateurs à mille pieds, parce qu'entre-temps, c'est fait la malin.
En tout cas, on l'a reçu dans Good Luxe Paris, donc je vous invite à aller sur les replays, comme ça vous saurez tout sur cette belle marque. Merci Emmanuel Rubin, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour d'autres Good Luxe.